enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Voilà, nous allons faire ce soir une petite suite du message de dimanche. Message de dimanche. Ah, c'est pour ça que j'ai le micro sans fil pour vous interroger. C'était... Ah, je vous aide un petit peu. C'est intéressant d'avoir vos... Le titre, c'était préparer de la nourriture en été. Profiter de l'été, la bonne saison pour se nourrir. Et comme le dit si bien le proverbe 6:6, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni maître, ni inspecteur, et pourtant elle amasse en été de la nourriture. Elle fait des provisions pendant la moisson. Voilà ce que nous dit le proverbe 6. Et donc je disais que, au travers de ce proverbe, eh bien c'était une exhortation que nous examinons dans la nature que Dieu a placé dans les animaux, les instincts et tout ce qu'il leur faut, et que pour nous, c'est une leçon pour des choses spirituelles. J'ai dit que nous avons besoin de nous nourrir et de nous fortifier quand on n'en a pas besoin. Vous me suivez? On a besoin de se nourrir et de se fortifier, même quand on a l'impression qu'on n'en a pas besoin, parce que quand l'épreuve vient, c'est trop tard pour s'entraîner. On peut des fois crier « Seigneur, au secours !» et il va encore nous sortir de la misère. C'est pour ça qu'il y a la miséricorde de Dieu, la corde que Dieu nous jette dans notre misère pour nous en sortir. Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est bon et agréable, Dieu ne laisse pas tomber ses enfants, mais ce n'est pas la volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous grandissions, nous arrivions à maturité et que nous puissions nous-mêmes aussi combattre avec les armes de Dieu. Je vous ai écrit, petits enfants, combien avons-nous de petits enfants ici ce soir? Les petits enfants spirituels, c'est ceux qui disent juste « Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés ». Et ça ne va pas plus loin. Et quand ils ont un besoin, ils courent vers leur Papa Céleste et leur Papa Céleste leur donne ce qu'il leur faut. Et c'est beau, c'est charmant tant que c'est petit. Mais quand ils devraient être grands et qu'ils ont la même attitude, ce n'est plus beau, c'est triste. C'est triste parce que pour eux devrait s'appliquer le passage « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » C'est ça qui devrait s'appliquer maintenant. Et quand des jeunes gens sont forts, ils sont contents d'être forts, eh bien on leur dit « Et ça ne suffit pas encore, je vous ai écrit, père, parce que vous connaissez celui qui est dès le début, dès le commencement. » Donc il y a toujours une progression, toujours une évolution dans les choses spirituelles. Et donc pour nous aussi, nous ne nous contentons pas de la nourriture de hier, pour le corps non plus, on mange tous les jours, et spirituellement on ne se contente pas des choses qu'on a reçues hier, mais on a besoin du frais pour aujourd'hui. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce que j'ai entendu un jour. Parce que j'ai l'impression que avec les centaines de cassettes et les dizaines ou centaines de livres que j'ai lus, je pourrais en avoir assez pour le reste de mes jours. Et pourtant, dans certaines situations, j'ai zéro foi. J'ai zéro gramme de foi. Il n'y a rien du tout. J'ai besoin de revenir quelque part, entendre quelque chose de frais de la part de Dieu. Quelque chose qui m'a dit pour aujourd'hui, que je peux croire. C'est la promesse qui m'a fait, était peut-être valable pour hier, mais aujourd'hui, je ne sais pas si elle est encore bonne. Ce n'est pas comme une recette, on prend toujours les mêmes choses. Regardez, Jésus est vivant et la façon dont il a agi avec les gens était chaque fois différente. Vous n'avez pas dans la Bible une recette pour guérir les aveugles. Parce qu'il a fait plein de choses. Une fois, il a dit à l'un, va te laver au réservoir de Siloé. Un autre, il a pris de la boue et il l'a mis sur ses yeux. Un autre, il a imposé les mains. Un troisième, encore d'autres choses, vous voyez. Donc, nous sommes vivants, il est vivant, et donc entre des personnes qui sont vivantes, eh bien on ne peut jamais savoir exactement ce qui se passe. C'est seulement des machines qu'ils ont programmées, normalement agissent toujours de la même façon. Donc, j'ai dit, c'est nécessaire de se nourrir. J'ai cité aussi, je voulais chercher la référence, mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai cité aussi que celui qui a faim mange n'importe quoi. Il est prêt à manger n'importe quoi. Même les pires choses, les choses abominables qu'on ne toucherait pas normalement, mais quand on est sur le point de mourir de faim, on est capable de manger n'importe quoi. Et d'un autre côté, celui qui est rassasié, il foule aux pieds, dit la parole de Dieu, même le miel. Même des bonnes choses, eh bien, à nos yeux, des fois, deviennent sans saveur. Et on peut se laisser prendre au piège d'être justement dans une église où il y a beaucoup d'enseignements, on a beaucoup de livres et beaucoup de cassettes, et au bout d'un moment, on est comme un peu saturé. Vous savez, je veux être honnête avec vous, même moi ça m'arrive. Nous avons le Christian Channel à notre maison. Tous les matins, il y a 6 heures d'enseignement. Alors, si je devais suivre un certain raisonnement, j'aimerais dire, mais si j'ai faim et soif de la parole de Dieu, il faudrait que je sois 6 heures devant tous les matins et que je dévore tout ça. Et quelque part, au bout d'un moment, il peut se créer une lassitude, où même les meilleurs orateurs, excellents enseignants, peuvent être là, mais parce que j'en ai stocké déjà sur vidéo des centaines d'heures, et que j'en ai regardé, et au bout d'un moment, eh bien, il se crée quelque chose qui fait qu'on ne peut plus le supporter, c'est trop. Donc il faut revenir à quoi? Eh bien, il faut revenir au début de la parole de Dieu qui dit que ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous fait du bien, mais c'est ce que nous digérons, ce que nous sommes capables d'assimiler. Parce que ce que nous assimilons, c'est dans notre corps, ça nous donne de la force et ça nous permet maintenant d'agir. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Et autrement, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On devient obèse. Grossi. Spirituellement, ça existe. C'est encore, je pense, une illustration dans le naturel de quelque chose qui peut se produire spirituellement. Et l'apôtre Paul l'a exprimé comme ça, grossir, il a dit, la connaissance enfle. De plus en plus enflé, mais ça ne produit rien de bon. La connaissance enfle, mais, il nous est dit, la charité, l'amour édifie. Et l'amour n'est pas seulement... Petits enfants n'aimons pas en parole et avec la langue, je rajoute entre guillemets seulement, mais en action et avec vérité. Donc la foi produira toujours quelque chose, toujours des actions correspondantes. Voilà pourquoi on n'est pas juste là comme des fourmis ou comme des écureuils ou comme que sais-je encore comme animaux réputés pour faire des stocks. Nous ne sommes pas là simplement pour dire, bien, je vais encore accumuler, encore une réunion de plus, encore un enseignement, encore une étude, encore un livre, encore une cassette. Non, mais nous sommes là pour manger en vue de devenir plus fort, de pouvoir exercer spirituellement, je dirais, nos muscles et de pouvoir produire quelque chose. Produire quoi? Bien, des bons fruits pour la gloire de Dieu. Voilà un petit peu pour mon résumé. Il y avait peut-être d'autres choses dedans, peut-être il y a d'autres choses qui vous ont marqué particulièrement. Et j'aimerais ce soir, donc, comme j'ai dit, faire un petit complément, deuxième partie. Se nourrir, oui, mais de quoi? Se nourrir de quoi? Comme je l'ai dit, quelqu'un qui est affamé, il est capable de se jeter sur n'importe quoi. Et j'ai pris 1 Timothée 4. Je l'avais cité l'autre jour, vous pouvez ouvrir avec moi votre Bible à 1 Timothée 4. Toute la parole de Dieu est inspirée, utile, il nous est dit dans la deuxième épître de Timothée, on verra plus tard peut-être. Mais il y a des livres qui me semblent plus actuels que d'autres. Il me semble qu'il y a des livres qui sont vraiment pour maintenant. Quand j'ai lu dans 1 Timothée 4 dimanche, l'Esprit dit expressément, verset 1, que dans les derniers temps, qui nous y vivons, voilà tout ce qui va se passer. Quelques-uns abandonneront la foi. Alors si on a notre compréhension de la foi, comme les gens de dehors, qu'est-ce qu'ils pensent? Une personne a la foi, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Je traduis. Souvent ça veut dire, c'est une personne qui a une croyance. N'est-ce pas vrai? Quand ils disent de quelqu'un qu'il a la foi, pour nous ça veut dire quelque chose de précis, avoir la foi. Par exemple, il est dit que si quelqu'un a la foi, Ça se voit parce qu'il y a des actions correspondantes. Si quelqu'un a la foi, il a des certitudes. Si quelqu'un a la foi, c'est pas juste « j'espère qu'un jour j'irai au ciel ». C'est pas la foi du tout. On est d'accord avec ça? Et c'est les gens qui sont autour de nous, souvent, ils sont dans une espèce de vague espérance. Comme je dis souvent, c'est comme si je dis « j'espère qu'il fera beau demain ». C'est pareil, c'est au même niveau. Et donc, ce qu'ils appellent la foi, c'est une croyance, c'est quelque chose qu'ils ont élaboré, système de pensée, culture, leurs parents leur ont communiqué ça, parce que la foi, on ne peut pas l'hériter dans le sens profiter celle des parents, bien sûr, elle peut se communiquer, mais on ne peut pas l'hériter automatiquement, mais on peut par contre hériter un certain nombre de pensées, de traditions et d'habitudes. Donc les gens qui disent d'une manière générale qu'ils ont la foi, eh bien moi je dis que souvent ils ne l'ont pas. Mais quand il est dit ici quelques-uns abandonneront la foi, pour abandonner la foi, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut d'abord l'avoir eu. Donc ça veut dire qu'il y a eu un moment dans leur vie, ils ont vécu avec la foi et puis ils ont de nouveau, ils se sont de nouveau éloignés de cette foi. Et nous allons voir combien c'est important pour nous. Parce que c'est en rapport avec le fait de se nourrir. Qu'est-ce qu'on lit au verset 6 ? En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Donc je veux aussi être un bon ministre de Jésus-Christ, je veux être nourri des paroles de la foi, je veux suivre la bonne doctrine et je veux, pour vous, vous faire du bien au travers de ça. Et quand je dis, quand je veux m'identifier à Timothée et dire la bonne doctrine que tu as exactement suivie, ce n'est pas là une prétention, ce n'est pas de dire, ouais, j'ai tout juste, c'est moi qui ai toujours raison, ce n'est pas ça. Mais exactement, ça veut dire que on s'y applique à coller le plus possible à ce qu'on sait. Et je prends un exemple pour ça. Il y avait... Dans Actes 18, verset 24, vous pouvez garder votre doigt dans Timothée, et ceux qui veulent suivre dans Actes 18, vous pouvez le faire. Vous pouvez dire, j'aime tourner les pages de ma Bible. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Vous voyez, ici, il nous est parlé de ce Apollos, et quand on lit le verset 25, on a l'impression qu'il est parfait. Instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, annonce et enseigne avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais dans la suite, on dit, quand il s'est mis à parler librement dans la synagogue, ce couple de collaborateurs de Paul, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc, ils ont vu que voilà quelqu'un qui est fervent d'esprit, qui annonce la parole, il annonce avec exactitude, mais seulement dans la mesure de ce qu'il connaissait. Il y avait encore d'autres choses qui devaient lui être révélées. C'est un petit peu dans ce sens que je veux, non pas m'excuser, mais de dire, quand je m'identifie à Timothée, être un bon ministre de Jésus-Christ, c'est-à-dire, quand on veut bien servir Jésus, il faut être nourri des paroles de la foi et avoir la bonne doctrine et la suivre exactement. Ce qui veut dire qu'on va la suivre dans ce que Dieu nous a montré. D'accord ? Ça ne veut pas dire que je possède une bonne doctrine qui surpasse toutes les autres et que personne n'est aussi bon que nous. C'est toujours important de se méfier de tomber dans, je dirais, dans l'arrogance ou dans un complexe de supériorité. Mais simplement, nous n'avons pas besoin non plus de nourrir à l'inverse un complexe d'infériorité, dire on est nul, on n'a rien à dire, pas de message. Non, il y a un message. Et nous allons voir que ce message, eh bien, il est puissant. Allez, je vous le dévoile. Déjà, c'est Romains 1, 16, il nous dit, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance. Beaucoup de gens cherchent la puissance. Dans le monde, les gens cherchent la puissance. Ils veulent être puissants, avoir une position dans la société, exercer leur influence sur d'autres, dominer sur des personnes. L'homme désire dominer. La femme aussi. Elle domine avec d'autres moyens. Il a déjà demandé pourquoi il y a plus de sorcières que de sorciers. Et parce que l'homme souvent prend le dessus sur les femmes dans le naturel, alors les femmes ont cherché dans d'autres sphères spirituellement à se sortir de ce joug et d'elles-mêmes exercer cette autorité. Et c'est, je dirais, c'est parce qu'il y a quelque chose en l'homme qui avait été créé à l'origine par Dieu. Il a dit, je te place sur terre et tu vas dominer sur la création. Dieu a voulu qu'il domine. Seulement, on ne peut pas dominer après qu'on ait eu la rupture avec l'autorité suprême et on n'a pas de domination si on n'est pas soi-même soumis quelque part. Et comme l'homme avait refusé cette façon de se soumettre à Dieu, il n'avait plus non plus la domination dans le naturel. Alors il a cherché à dominer d'autres façons. Et c'est comme ça que, eh bien, cette façon, je dirais, pervertie de la domination s'est étendue dans le monde entier. Et chacun maintenant essaye de s'imposer l'un à l'autre. Alors Jésus est venu et il nous a rappelé les lois du royaume, qui est que nous allons exercer une autorité spirituelle, mais ce ne sera pas une autorité spirituelle pour écraser ou pour dominer, ce sera une autorité spirituelle pour libérer. Et celui qui veut être le plus grand, eh bien, il va se rendre serviteur des autres. Et de cette façon, il a dit, voilà la vraie façon dont ça se passe dans le royaume de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, nous avons besoin d'être nourris des paroles de la foi. On ne peut pas être nourri d'autre chose. Dieu a prévu que nous soyons nourris de ça. Hein? C'est comme si maintenant on commençait dans le naturel à vouloir manger des choses que Dieu n'a pas prévues dans son corps. On en a déjà parlé l'une ou l'autre fois. On voit qu'il y a des conséquences. Hein? Soit que notre corps ne peut pas les assimiler, ou alors on les assimile et ça consiste à prendre du poison en nous. Et bien de la même façon, dans le spirituel, il n'y a qu'une seule façon d'être nourri. C'est la façon dont Dieu nous a créés. Il nous a créés esprit pour que nous soyons nourris des paroles de la foi. Et les paroles de la foi, c'est les paroles mêmes de Dieu. Dieu est esprit, ce qu'il parle dans notre vie, et c'est ce qui nous nourrit. L'homme vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a voulu dire cela et pour que nous comprenions ce principe d'être nourri spirituellement. Se nourrir donc, la question c'est, mais de quoi? Eh bien ici on a la réponse. Nourri des paroles de la foi. Alors, je ne sais pas ce que ça a produit en vous, mais quand je vous ai exhorté dimanche à prendre cet été pour vous nourrir comme vous n'avez jamais été nourri, eh bien, il faut que ce message soit pratiqué. Hein? Il faut que vous le mettiez en pratique. Donc, vous pouvez faire, bien sûr, comme on le fait, comme je l'ai déjà partagé, des fois on prend des résolutions, on appelle ça des résolutions dans la chair. À partir de demain, tous les matins, je me lève à 5 heures et je commence la journée au moins 2 heures dans la Bible avant de prendre mon petit déjeuner. Hein? Pas de Bible, pas de petit déjeuner. Ou des choses comme ça, qui sont toutes bonnes dans un premier sens, mais elles révèlent par la suite leur origine, elles sont dans la chair quand elles ne durent pas. Quand au bout d'un moment, eh bien, patatras, ça s'écroule, toutes les belles résolutions, ça n'a même pas duré 2 jours, et on a tapé sur le réveil, et c'était terminé. Et pourtant, en nous, il y a le désir. Le désir est là. Parce qu'il nous est dit dans Romains 7 que j'ai ce désir en moi, selon l'homme intérieur. Je désire ce qui est selon la loi de Dieu. Mais il y a aussi dans nos membres une autre loi qui lutte. Mais ce désir, il est là. J'ai bien aimé, il y a un petit livret qui était sorti une fois. Ça s'appelait « Le désir et le plaisir de prier ». Alors je vous le recommande à l'occasion, quand on le retrouvera, il n'est pas gros. Le désir et le plaisir de prier. Au lieu de « il faut que tu pries », et de redécouvrir quelque chose de totalement différent. Donc quand je disais mettre en pratique, je ne sais pas ce que vous avez décidé avec Dieu ou en vous-même, ou peut-être rien du tout, vous l'avez tout de suite oublié. Alors c'est pour ça que je vous fais le rappel ce soir et que je ne vous lâcherai pas, parce que je verrai les progrès que vous faites. Vous voyez les progrès que je fais, mais moi je vois aussi les progrès que vous faites ou que vous ne faites pas. Eh bien, la solution, elle est dans la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas nourris des paroles de la foi, notre foi est faible, et notre foi qui est faible ne produit pas grand-chose. Hein? examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Donc Paul écrivait aux Thessaloniciens, il leur disait, eh bien, qu'il se réjouissait parce que votre foi fait de grands progrès. Comment peut-on mesurer la foi de quelqu'un? Eh bien, seulement dans les choses qu'il vit, dans les résultats. Si vous priez et que chaque malade pour lequel vous priez est guéri, eh bien, tout le monde se dira, cette foi-là, eh bien, elle produit des résultats. Il a fait des progrès. Et je voulais vous partager. Je ne vais pas me transformer en vendeur maintenant, hein. Nous avons des livres à vendre, mais d'un autre côté, nous n'avons rien à vendre, dans le sens que ce n'est pas ce qui fait notre principale, je dirais, motivation. La vente n'est là que pour vous servir. Alors, j'aimerais vous partager des choses concernant quelques livres que j'ai pris comme ça. Et j'aimerais vous dire un petit peu les choses qu'on a découvertes là-dedans. Quand je dis « on », c'est quelques-uns avec moi, quelques-uns d'entre vous d'ailleurs. Ah, il en manque encore un. Il y a encore un livre qu'il faudrait rajouter à la collection. L'autorité du croyant, je trouve, est un livre difficile. Qui est d'accord avec moi? Je trouve que c'est un livre difficile parce qu'il parle de l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens est un livre qui est extrêmement dense. Il y a tellement de choses dedans. C'est du compact. À chaque mot, il faudrait arrêter et méditer et demander à Dieu la révélation pour comprendre la suite. Il y a tellement dedans. Mais l'Épître aux Éphésiens est une des épîtres qui nous apporte le plus au niveau de ce que nous sommes en Christ, de l'endroit où nous sommes actuellement, assis avec Christ dans les lieux célestes. Je sais, j'ai entendu encore dernièrement, il y a un débat, parce qu'on se demande, ben alors où est-ce qu'on est assis? Vous êtes sur une chaise, et puis Christ, il est dans les lieux célestes, et alors certains pensent, ça j'ai entendu, ça m'a surpris dernièrement, certains pensent que être assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est faire l'expérience de Paul qui à un moment était ravi dans l'esprit et qui s'est retrouvé au ciel. Ah, j'étais stupéfait par cette interprétation parce que pour moi, assis avec Christ dans les lieux célestes est vraiment une interprétation spirituelle. Ce n'est pas que mon esprit, c'est-à-dire moi, j'ai besoin d'être réellement en haut, assis avec Christ. Je suis uni avec Christ en esprit. Je suis en lui, lui est en moi. Il se trouve que Christ est réellement dans le ciel à la droite de Dieu, selon la description de la Bible, mais qu'en réalité, Dieu étant omniprésent, il peut être partout. Mais ce que ça veut dire, c'est pas pour localiser Dieu, dire « le voilà, il est là, on l'a repéré, il est sur son trône et nulle part ailleurs ». Non, c'est simplement pour dire qu'il existe un endroit qui est le trône de Dieu, et là il a dit « son trône est fondé sur la justice, l'équité, toutes les autres choses ». Ça veut dire qu'il y a un endroit où l'autorité divine se manifeste par excellence. Et là, chacun d'entre nous peut reconnaître que c'est lui le Créateur, c'est lui le Dieu de l'univers, qu'il n'y en a pas d'autre. Mais ce n'est pas pour lui dire qu'il doit toujours rester à cet endroit, il n'a pas le droit d'être ailleurs. Dieu étant omniprésent, il peut être n'importe où et voir tout ce qui se passe dans tout l'univers. En même temps. Et nous parler à chacun, à des millions de personnes, et entendre chacun, et c'est des choses qui nous dépassent. Et c'est pour ça qu'il a le temps aussi pour chacune de nos petites choses. N'a pas besoin d'avoir peur de déranger Dieu. Il n'y a pas une liste d'attendre. Attends d'abord les choses urgentes. Toi, tu passes après. Non, même si quelqu'un prie pour être guéri d'un cancer et pendant ce temps, vous retrouvez plus les clés de votre voiture ou que sais-je, qui est peut-être embêtant, mais moins dramatique, eh bien, ça n'a pas d'importance pour Dieu. Au même moment, il peut être partout et présent partout. Donc, ce livre, je disais, est difficile, il est dense, mais extrêmement important. Mais pourquoi il est difficile? Parce que vous ne pouvez le recevoir que par révélation. C'est exactement ça. Quand Jésus a fait cette déclaration, il a dit « Il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, ils étaient surpris. Ils ont dit, mais alors, qui peut être sauvé? Parce que leur raisonnement était le suivant. Si tu obéis à Dieu, Dieu te bénira. S'il te bénit, donc tu deviens riche. Si tu es riche, donc ça veut dire que tu entres dans le royaume de Dieu. Vous avez suivi? Ça, c'était le raisonnement simple des gens de l'Ancien Testament. Quelqu'un est maudit, c'est qu'il a désobéi à Dieu. La malédiction est venue sur lui, c'est pour ça qu'il est malade, pauvre, etc. Mais nous savons qu'il y a du vrai là-dedans, mais ce n'est pas aussi simpliste que ça. Donc Jésus, quand il a dit « il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu », il a complètement bouleversé leurs habitudes de pensée. C'est pour ça que je disais, il manque encore un livre, c'est « Abattez les forteresses ». « Abattez les forteresses » est un livre qui prend comme titre un extrait de 2 Corinthiens 10. Il nous est dit « Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements, les forteresses et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Eh bien, donc quand Jésus est venu et qu'il a dit cela, il a abattu des forteresses de pensée dans l'esprit de ses disciples. Il a dit, vous aviez l'habitude de penser comme ça, mais moi je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu parce qu'ils se confient dans leur richesse. Ils pensent que parce qu'ils sont riches, ça veut dire que Dieu est d'accord avec ce qu'ils font et qu'ils peuvent alors vivre de la manière dont ils veulent. Dieu les approuve. Et il a dit, non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas se confier dans les richesses, mais se confier en Dieu lui-même. Vous voyez? Ça, c'était une illustration. Donc, au travers de ces livres, eh bien, vous allez découvrir l'autorité du croyant par révélation. Et vous allez voir que vous êtes en train de négliger quelque chose que vous avez. Et même si vous savez, le nom de Jésus est puissant, j'ai l'autorité, je peux déclarer que ceci, que cela se fasse, pendant que votre bouche le dit, dans votre cœur, quelque chose cloche. Quelque chose cloche, ça veut dire que vous n'êtes pas parfaitement en harmonie. Vous essayez de proclamer la foi, mais la foi n'est pas en vous. C'est pour ça que quand je disais nourri des paroles de la foi, vous pouvez prendre votre Bible, mais je ne dis pas ça justement pour faire absolument de la vente. Mais je dis au travers de ce livre par exemple, eh bien votre foi dans l'autorité du croyant sera renforcée. Ce sera comme si je veux faire de la musculation et que je me dis, bon, il y a des parties de mon corps, je fais beaucoup de marches tous les jours, là je suis bien entraîné, mais mes bras ont besoin d'être fortifiés aussi. Alors je fais un peu d'haltérophilie pour faire des biceps. Eh bien, c'est la même chose. C'est pour ça que je dis que je ne crois pas en une foi globale. On ne dit pas j'ai la foi, point. Non. Je peux avoir une foi dans un domaine et zéro foi dans l'autre. C'est pour ça que, par exemple, ce livre eh bien, développe votre foi concernant l'autorité du croyant. Utilisez le nom de Jésus. Et la prochaine fois que vous faites face à une situation difficile, que vous-même vous êtes des fois sans le savoir, face à des puissances des ténèbres qui agissent au travers des gens, et que vous voulez régler le problème d'un point de vue humain, eh bien, parce que votre foi aura grandi. Vous direz, eh bien, j'utilise l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus. Abattez les forteresses et l'autorité du croyant étaient les deux premiers livrets, je parle de ça il y a presque 20 ans maintenant, pratiquement les deux seules choses qui existaient en littérature française dans ce domaine. Française dans le sens en français. Hein. Et maintenant vous voyez les rayons, il y en a des dizaines maintenant. Mais j'ai dit au début que nous avons fait nos premiers pas avec Dieu, nous n'avions pratiquement rien du tout de ce type. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autres livres, il existait quelques autres livres. Mais dans ce domaine, il n'y avait que ça. Et l'autorité du croyant n'existait pas encore sous cette version. C'était encore un petit dépliant. J'en ai encore gardé précieusement en souvenir, je suis un peu collectionneur des fois, en souvenir j'ai gardé un petit dépliant tout jauni, imprimé en orange, et une fois qu'ils étaient passés, c'est nos amis Gravet qui a dit « Certainement ça devait moi qui ai agrafé ces brochures ». Puisque ça avait été fait par un travail pionnier de Jean-Louis Jaillet à l'époque. Et alors qu'on ne trouvait pas ces livres de foi, eh bien, ils avaient fait cette petite brochure et ils l'avaient fait comme ils ont pu à l'époque. Mais vous savez, c'est au travers de ça que j'ai reçu. C'est au travers de ça. Quand j'ai vu l'autorité du croyant, immédiatement en moi, il nous est dit que l'onction nous enseigne. Certains ont pris ce prétexte, c'est dans la première épître de Jean, quand il est dit l'onction nous enseigne, en disant on n'a plus besoin des docteurs de la parole, tout ça, l'onction nous enseigne. C'est complètement hors contexte. Il est dit l'onction nous enseigne, ça veut dire que quand quelqu'un vient vous apporter une fausse doctrine, en vous-même, l'onction du Saint-Esprit vous dit n'écoute pas ça, il n'a pas la doctrine de Christ, n'accepte pas ces fausses doctrines. C'est ça qu'elle dit, l'onction nous enseigne. Elle ne dit pas du tout ce que certains ont voulu dire. Nous ne voulons entendre rien de personne, on veut être enseigné de Dieu directement et que de lui. Et c'est rien d'autre qu'une manifestation d'orgueil. Mais Dieu a voulu au contraire que nous ayons besoin les uns des autres. Il a placé 5 ministères dont dans le corps afin que nous soyons perfectionnés, édifiés et tout cela. Donc, il y avait l'autorité du croyant, abattez les forteresses. Là encore, maintenant avec un peu de recul, c'est intéressant de voir que tous ces frères et sœurs bien-aimés sont devenus des amis de nous. Au début, on connaissait juste une petite brochure par-ci, par-là, et il s'est développé quelque chose de sa sorte qu'on les connaisse tous. Ceci, abattez les forteresses, a été traduit par Denise et Lia Poudjian. Et c'est eux qui l'ont diffusé depuis des années. Et c'est les deux seules choses qui existaient. Ensuite, il y a environ 15 ans de cela, je me suis promené un jour à Strasbourg. Je vais vous encourager avec ça parce que c'est les choses comme je les ai vécues. Et je me suis promené à Strasbourg et je suis allé dans cette librairie cafétéria, les 7 Corbeilles, qui a été un jour aux 7 Corbeilles. Donc il n'y a plus rien des 7 Corbeilles maintenant, hein, mais l'autre jour encore, quand j'avais montré un peu Strasbourg à quelqu'un, on s'y était promené, puis je me suis dit, tiens, c'est cet endroit qui est spécial pour moi. Donc je vais à cette cafétéria, enfin un petit restaurant, hein, et je descends à l'endroit où il y avait cette librairie chrétienne, et je trouve 3 livres. Dont un est actuellement épuisé, d'ailleurs il ne faut pas qu'il soit épuisé, il faut qu'on en ait toujours. Et l'un c'était la médecine de Dieu, qui était en couleur orange à l'époque. Il y avait en lui et il y avait le précieux sang de Jésus. Ces 3 mini-livres étaient les seuls que j'ai trouvés dans cette librairie, et un seul exemplaire ou 1-2 exemplaires de chaque. Et c'était en 1986, et c'était, tenez-vous bien, ces livres n'ont jamais été vendus par cette librairie, ni avant ni après. Mais au moment où j'y suis arrivé, c'était le père de John Madden, Michael Madden, qui s'occupe des éditions, qui avait, lors d'un stand, offert quelques mini-livres à son voisin de stand. Et c'était la personne qui faisait la librairie des 7 Corbeilles qui les avait posées chez lui. Mais quand j'ai vu ces lignes libres, je m'en suis tout de suite saisi, emparé. Et ils venaient de commencer leur travail d'édition. Maintenant, ils en sont à plus de 33 livres, titres différents. Mais ils venaient de commencer leur travail d'édition. Mais là encore, la même chose s'est produite. C'est-à-dire que quand je les lisais, il y avait à l'intérieur ce témoignage de l'Esprit, que c'était ce que Dieu voulait me révéler, c'était ce qu'il nous fallait pour le moment. Et à ce moment-là, donc en 86, je venais juste d'avoir les premiers exemplaires, et eux, à l'époque, ils avaient commencé le travail d'édition, et je ne sais pas, tous les mois ou tous les 2 mois sortaient des nouveaux titres de mini-livres. Les mini-livres étaient plus faciles à faire, hein, bien sûr, sont aussi plus faciles à lire. Et moi, je suis extrêmement favorable à la diffusion des mini-livres. Parce que beaucoup de gens, quand ils voient un pavé, ils ont déjà une migraine, rien qu'à l'idée de devoir ingurgiter ça. Et ça se lit en 20 minutes pour les rapides, une demi-heure pour les normaux, et puis pour ceux qui veulent approfondir, ceux qui veulent vraiment méditer, ils mettent plus de temps, hein. Mais je veux dire, ça c'est d'accès facile. En plus, vous pouvez glisser facilement dans une poche n'importe où. Et donc vous pouvez aussi l'envoyer. Et donc on s'est nourri de ces choses et nous nous sommes retrouvés pendant 2 ans dans une situation où nous n'avions, pour ainsi dire, pas d'église. À cause des circonstances, on était dans un endroit où il y avait bien une assemblée qui fonctionnait, mais je dois le dire pour la vérité, je ne veux pas les maudire, mais je dois dire qu'on ne recevait rien. Nourriture spirituelle, ben, c'était rien du tout. C'était à peine du petit lait, mais ce n'était pas de quoi grandir. Et en particulier, il n'était pas du tout favorable aux choses que nous avons découvertes depuis. Toute la vie de l'esprit, la guérison, la foi et toutes ces choses n'étaient pas enseignées. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons passé des heures dans la prière, dans la lecture de la parole et dans la lecture de ces livres. Pendant 2 ans. Et pour, je ne veux pas me vanter, mais juste pour vous donner un exemple. Nous n'avions rien du tout, jamais de sortie, jamais de rien du tout. Pas de télévision non plus. Et donc, nous n'avions que Dieu et sa parole. Et c'était très bien comme ça. À l'époque, je lisais le Nouveau Testament 1 fois par mois. Comme ça, ça faisait 12 fois par an. Et ça permet donc de vraiment se nourrir de la parole. Mais je vous assure que des passages entiers que je connaissais par cœur, il y en a que je ne connais plus maintenant. J'ai besoin de nouveau, c'est pour ça que je vous le dis, de me rafraîchir dedans, de me renouveler. Mais moi, je me dis, c'est pas possible, je connaissais si bien ces passages. Je les lisais, relisais, maintenant, c'est comme si c'était échappé. Mais vous savez, une fois que vous les aviez en vous, ça revient vite. Ça revient, c'était quand même présent. Et donc ils ont fait beaucoup de progrès, et j'aimerais dire un petit mot sur, puisqu'on parle de nourriture, ils ont commencé la nourriture de la foi, comme son nom l'indique, c'est pour nourrir notre foi, et l'intérêt, et ça on peut le recommander, vraiment je dirais à tout le monde, des fois on ne sait pas quel livre donner à quelqu'un, mais ça on peut le donner à tout le monde, parce que c'est court. Tout le monde est capable de faire ça 1 fois par jour. Et en bas, il y a une bonne déclaration. Et la bonne déclaration, eh bien, c'est croire dans son cœur et confesser de la bouche. Nous savons que c'est ça la loi de Dieu concernant ce que nous vivons. C'est comme ça que nous sommes sauvés. Rien de moins que ça. Nous sommes sauvés de cette façon. Et vous savez que le mot salut n'est pas juste limité à un jour je serai au ciel. Mais c'est plus que ça. Mais guérison, délivrance, prospérité, protection de Dieu, tout ce que vous voulez, eh bien c'est comme ça qu'on l'obtient. On entend les paroles de Dieu, on les reçoit dans notre cœur et on ose les déclarer, on ose les proclamer. Et alors nous étions donc, on était nourris, notre foi était nourrie. On l'a fait pendant plusieurs années, de temps en temps on le fait encore avec les enfants, mais nous avons maintenant d'autres encore méditations qui sont sorties. Et donc on a un petit peu changé, mais elle reste toujours valable, très valable. Il n'y a rien de mieux comme base pour notre foi quotidienne. Et j'aimerais vous dire, justement, concernant le fait de progresser, concernant le fait de grandir dans le Seigneur, il y a un danger pour certains. C'est que nous croyons que, ok, ça c'est la base, c'est l'ABC, mais maintenant j'ai grandi, j'ai plus besoin. Je suis maintenant dans d'autres sphères spirituelles. Eh bien, même si vous mangez des choses raffinées, parce que vous en avez les moyens, parce qu'au début vous ne mangez que du pain complet et de la soupe, et que maintenant vous êtes plus riche, donc vous mangez du caviar et d'autres choses, mais votre corps a encore besoin des choses élémentaires. N'est-ce pas vrai? Eh bien, de la même façon, votre esprit, même si vous goûtez à certaines choses dans l'esprit, même si vous êtes utilisé par Dieu, que vous avez une onction formidable qui agit dans un certain domaine, dans une sphère, vous avez encore besoin de l'ABC, de la foi, tous les jours, de votre pain noir. Le pain noir, le pain complet, eh bien c'est la parole de Dieu, je dirais dans sa base, dans sa simplicité même. Et certains serviteurs de Dieu, maintenant je parle de ce livre, Comprendre l'onction, alors là, je dirais pour certains qui recherchent des choses spectaculaires dans l'onction, ils sont un petit peu déçus, ils voudraient en savoir plus. Ce n'est pas un livre sur des choses super, extra, formidables, mais c'est un livre qui explique des choses importantes que nous devons comprendre concernant l'onction pour pouvoir sainement aller plus loin. Et certains, parce qu'ils ne l'ont pas compris, dès que l'Esprit de Dieu a commencé à les saisir et agir sur eux, ils ont dit « ça y est, maintenant on peut filer ». Eh bien, il raconte que dans les années 50-60, quand il y a eu un ministère, plusieurs ministères puissants qui se sont manifestés aux États-Unis dans le domaine de la guérison, ces évangélistes avaient une onction telle que des gens étaient guéris de toutes sortes de maladies extraordinaires, et ils ont cru que parce que l'onction était sur eux, cette onction agissait aussi à leur vie personnelle. Mais ça, c'est une grave erreur. Nous avons besoin de comprendre que l'onction pour le service qui peut être sur nos vies et le fait de marcher notre vie chrétienne quotidienne sont deux choses qui doivent aller ensemble, mais qui sont quand même deux choses différentes. Bien sûr, il y a une influence, hein. Bien sûr, il y a une influence. Et il dit là, et ça, je pourrais encore vous citer des exemples actuels, mais il dit à l'époque déjà, certains ne le suivaient pas dans ce que lui, il enseignait et prêchait. Et ces gens-là disaient, mais l'Esprit de Dieu est avec nous, regarde les grandes choses qui se passent. Il a dit, quand vous tous, vous ne serez plus là, je serai encore dans le ministère. Il a plus de 80 ans, il est toujours dans le ministère. Et Dieu se manifeste au travers de lui. Et il y a eu beaucoup de signes et de miracles. Mais il a toujours mis l'accent sur le fait de se nourrir au quotidien dans sa foi. Par contre, certains évangélistes qui étaient puissamment utilisés par Dieu à un moment ont négligé leur vie personnelle et ils ont chuté de toutes sortes de façons. On peut chuter parce qu'il y a eu des scandales, soit argent, soit des choses au niveau homme-femme, soit aussi des choses au niveau de la maladie. Imaginez, c'est terrible. Mais nous avons aussi ce livre qui parle des pionniers de la foi et qui nous parle des frères Jeffreys, qui étaient des gens qui ont vu des miracles par dizaines, par centaines, par milliers. Quand nous voyons ça, nous disons, oh, Seigneur, si seulement tu voulais m'utiliser comme ça. Mais il écrit dans ce livre, il a dit, deux frères avec une fin tragique, qui sont morts de maladie, après que le Seigneur en ait guéri des centaines au travers d'eux. Tout simplement parce qu'à un moment, il y a eu une pensée qui était fausse. Un faux raisonnement. Le faux raisonnement, c'est, tant que l'onction est là, Dieu est d'accord avec tout ce que je fais. Ça, c'est le faux raisonnement. Et c'est pas vrai. Regardez Samson. Regardez la vie de Samson. Il vivait n'importe comment, mais l'Esprit de Dieu le saisissait, et à ce moment-là, il se sentait fort. Et il était fort. Jusqu'au moment, il nous a dit, où l'Esprit de Dieu s'était retiré, mais il l'avait même pas remarqué. Et c'est ça que nous devons donc considérer, comprendre l'onction. Si on comprend ce principe, on ne va pas dire, non, nous restons à notre ABC. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis pas que nous ne devons pas aller plus loin, mais je dis, nous avons besoin au quotidien nourrir notre foi. Comme d'autres le font. Comme le bébé en Christ, celui qui vient de se convertir le fait, eh bien, nous avons besoin tous les jours, de nous nourrir. Et pas de n'importe quoi, mais nourrir les paroles de la foi. Miracle dans ta bouche. Il y a un miracle dans ta bouche. Eh bien, quand nous avons repris celui-là, il y avait encore, je dirais, il n'est pas gros, c'est le petit témoignage de John Austin, comment le Seigneur a délivré, ou plutôt guéri, sa fille, bien que, je me demande si on peut parler de maladie dans ce sens, c'est plutôt un miracle de Dieu, de ce qu'il a fait avec sa fille, mais là encore, ça reprend cette notion de recevoir la parole de Dieu dans le cœur, le proclamer et voir les résultats. Je me rappelle en particulier de ce livret, on l'avait donné, c'était un jeune homme qui avait le cancer de la gorge, et ce jeune homme, il avait dit, il était de famille chrétienne, ses parents étaient chrétiens, lui-même était chrétien, mais alors qu'il travaillait avec nous, en 6 mois, il avait perdu 16 kilos. En 6 mois, il avait perdu 16 kilos. Non, il n'avait pas fait un régime super, il avait tout simplement, il y avait un problème dans son corps, quelque chose ne fonctionnait plus, et il avait, donc ils ont trouvé un cancer de la gorge. Et ce jeune homme, nous lui avons donné tout ce qu'on avait à l'époque, des mini-livres, etc. Et il m'a fait cette déclaration, il a dit, je savais toujours que Dieu pouvait guérir, aucun doute sur la puissance de Dieu, mais il a dit, mais je ne savais pas qu'il voulait le faire. En fait, quand on fait une déclaration que Dieu peut guérir, mais qu'on ne sait pas est-ce qu'il veut le faire dans ma situation, Lester Sumrall l'a résumé d'une façon assez forte. Il a dit que Si on dit que Dieu peut guérir, mais qu'on n'est pas sûr qu'il veut, ça veut dire qu'on a plus de foi dans la puissance de Dieu que dans sa compassion et son amour. Si on croit que Dieu peut guérir, mais qu'on n'est pas sûr s'il veut le faire, l'Esther Semrach déclare que nous avons plus de foi dans la puissance de Dieu que dans son amour et sa compassion. Et donc, il a dit, je savais toujours que Dieu est puissant, qu'il a tout créé, qu'il pourrait, mais je ne savais pas, est-ce qu'il veut le faire dans ma situation? Il a dit, au travers de ses enseignements, qui sont très, je dirais, radicaux, dans le sens que Dieu veut, eh bien, il a dit, alors, j'ai réalisé que Dieu voulait me guérir. Et le lundi matin, il était chez les médecins, ils ont fait toutes sortes de radios pour voir à quel endroit de la gorge ça se situait et où il fallait intervenir pour les rayons qui étaient prévus dans la semaine, opération prévue le jeudi. Et le mardi, il y avait une journée où, je me rappelle, on m'a dit, ses parents ont aussi jeûné, prié ce jour-là pour lui. Il y a plusieurs personnes qui priaient. Mais le soir, il a craché quelque chose. Il l'avait dans sa main et c'était son cancer. Il a craché son cancer et il était là. Et le jeudi, il est donc allé voir les médecins. Il était prêt pour les rayons. Ils ont voulu repérer l'endroit précis. Ils n'ont plus rien trouvé. Il était guéri. Alléluia.
Amen.
Et pour vous dire que nous pourrions donner beaucoup d'exemples, mais pour vous dire que la parole de Dieu, elle, marche. De la même façon que ma voiture a fonctionné tout à l'heure et que si je vous donne les clés, vous pourrez la faire marcher comme moi parce qu'elle est conçue pour marcher et que si vous avez la bonne clé, elle marchera. Eh bien, de la même façon, la Bible n'est pas vraie que juste pour un tel machin en Amérique, en Afrique ou que sais-je, ou juste pour l'un et l'autre d'entre nous, mais elle est vraie pour quiconque croit. L'évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc nourrissez-vous des paroles de la foi et vous verrez les résultats que vous attendez. Vous verrez des résultats. Parce que la parole de Dieu ne peut pas retourner à lui sans effet. Elle est faite pour marcher. Elle est faite pour marcher. Ta foi en Dieu marchera, on l'a aussi celui-là. Hein? Mais pas, c'est le petit livret violet là où ça pousse les graines qui poussent. Je pourrais encore continuer pendant quelques temps à vous dire que chaque livre n'a pas été chez nous une façon d'enfler notre tête, mais ça a été une façon d'éprouver ces choses, de les mettre en pratique et de voir des résultats dans la vie des gens. Grâce à ce livre conduit par l'Esprit est un livre qui a été écrit, ou plutôt c'est des notes qui ont été rassemblées d'un séminaire que Kenneth Hagin a fait aux États-Unis pour les hommes d'affaires du plein évangile. Là encore, on se retrouve en une certaine famille. Et ce livre a été un sujet d'enseignement de Marc Brasi dans un séminaire à Nice, conduit par l'Esprit de Dieu. La jaquette des cassettes, je ne sais pas si elle est là. Il doit y avoir 6 cassettes d'enseignement de comment suivre l'Esprit. À un moment donné, j'ai été muté pour mon travail, quelque part où je n'aurais pas souhaité être. C'était très loin de la maison. Et donc, j'avais pas loin de 1h15, 1h30 à rouler, matin et pareil le soir. Donc, j'écoutais à peu près 2 cassettes d'enseignement par jour. Alors, quand j'ai eu ces cassettes avec ces séminaires, je les ai écoutées et écoutées encore. Et je vais vous dire que le conduit par l'Esprit, je l'ai digéré. Je ne l'ai pas seulement mangé, mais il est digéré et il a été appliqué. Et il m'a sauvé la vie, j'en suis sûr. Parce qu'à un moment, j'ai fait exactement ce qui était sur la cassette. J'ai commencé à prier dans l'Esprit, commencé à écouter ce que Dieu dit. Et j'ai senti dans mon esprit ralenti. C'était une petite route de montagne qui tournait pas mal. Et le ralenti devenait en moi impérieux dans le sens que si vous roulez à 70-80, ça vous paraît pas rapide, mais sur une petite route, c'est déjà pas mal. Donc j'ai ralenti, je pensais qu'à 60, c'était déjà un bon ralentissement. Mais j'ai senti encore en moi ralenti. J'étais à 40 quand au détour de la route, je viens devant un pont SNCF. Et ce pont était tellement étroit que le gros camion qui était dans l'autre sens et qui venait vers moi remplissait toute l'ouverture. Il le remplissait complètement. Il y avait peut-être encore un demi-mètre de chaque côté. Et j'ai pu, avec la voiture, freiner à fond et me serrer sur le côté, et je me suis arrêté à 20 cm du mur qui soutient le chemin de fer. Ben, c'est des exemples comme ça que nous avons pu expérimenter, on pourrait continuer encore beaucoup, que nous avons pu expérimenter en pratiquant ces livres. Conduit par l'Esprit de Dieu, ça veut dire apprendre à écouter la voix de notre esprit. Et ça produit des résultats. Le résultat, c'est que je suis là. Et que ce jour-là, eh bien, j'ai pas eu un accident. Et même si j'étais pas mort, on serait posé la question, pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Pourquoi a-t-il voulu ça? Qu'est-ce qu'il a voulu enseigner par là? Et toutes les questions qu'on peut se poser, mais qui sont des questions qui sont fausses. Qui sont simplement parce que on n'a pas pris le temps d'entendre à un moment donné que Dieu voulait. Mais ça m'a pris d'abord les heures d'écoute, d'enseignement, encore et encore, jusqu'à ce que ça descende. Et jusqu'à ce que ça soit en moi. Et voilà donc, maintenant vous avez le choix, avec tout ça, et avec tous ceux qui sont là, et avec tous ceux qui prennent la poussière chez vous, pour vous nourrir des paroles de la foi. Et je ne veux pas critiquer les autres livres chrétiens. Mais je dis, il y a des livres, par exemple, qui nous parlent de témoignages, il y en a d'autres qui nous parlent d'enseignement de doctrine. Mais à côté de tout cela, vous avez toujours besoin de nourrir votre foi. Un de nos auteurs qui s'appelle Frédéric Bosworth, qui a été un homme de Dieu qui est parti dans la gloire, son départ pour la patrie céleste est formidable. À plus de 90 ans, en pleine forme, il savait que ce jour-là, le Seigneur viendrait pour le chercher. Il dit à tout le monde, ça y est, je vais partir. Et il s'assoit sur son lit le matin et puis dit, ça y est, je vois la gloire, c'est Jésus qui est là, il vient me chercher et c'est terminé. Et il était en pleine forme. Et cet homme a dit que tous les jours, à côté de toutes les autres écritures qu'il peut lire, méditer, tous les jours, il se nourrit de quelques versets qui parlent de la foi ou de la guérison. Et c'est ça, produit des résultats. Vous voyez? Ça produit des résultats. Et pourtant, c'était aussi un homme qui avait une onction puissante. Derrière son livre, il est dit qu'il a reçu plus de 225 000 lettres de témoignages de gens qui ont été guéris dans ses réunions ou dans ses ministères. 225 000. Et je ne parle pas d'une période où on avait la télévision. Je parle d'une période où les gens devaient aller encore à des chapiteaux pour... Cet homme, tous les jours, se nourrissait des paroles de foi et des paroles de guérison. Et tous les jours, il priait selon le psaume 119. Seigneur, rends-moi la vie selon ta parole. Rends-moi la vie. Ça veut dire pas juste je suis content de survivre. Rends-moi la vie. Ça veut dire il y a quelque chose dans notre vie qui manque encore. Une dimension, on dit, Seigneur, je ne suis pas satisfait de la qualité de vie que j'ai. Jésus a dit la vie et la vie en abondance. Où est-ce qu'elle est, cette vie en abondance? Rends-moi la vie. Vous voyez, c'est une façon de se dire, eh bien, nous avons droit à quelque chose de plus que le diable nous a volé. Et nous sommes là pour nourrir nos muscles de la foi et pour l'obliger après à nous lui rendre, à le lâcher. Et que Dieu puisse nous donner la totalité. Amen.
Amen.
Donc, voyez ce que vous avez à faire. Ma responsabilité est dégagée en ce qui vous concerne. Mais elle commence en ce qui me concerne. Parce que je dois me nourrir aussi tous les jours des paroles de la foi. Sinon, vous ne verrez pas de progrès.